Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit exposé de la Cité des Arts. Dans cette vidéo, je vais me fixer un objectif ambitieux, essayer de répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'une chanson marche? C'est une question qui paraît toute bête comme ça, mais en réalité c'est assez difficile de répondre. Et je vous préviens tout de suite, je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse à la fin de cette vidéo. Pour essayer de trouver un début de réponse, je vais faire appel à des experts en la matière, les Beatles. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce groupe britannique. Si c'est pas le cas, vous êtes passé à côté de quelque chose, je vous le garantis, mais il est peut-être pas encore trop tard pour rattraper le temps perdu. Donc, les Beatles, c'est ce groupe britannique qui est devenu mondialement connu dans les années 1960 grâce à un impressionnant palmarès de chansons qui sont devenues des tubes. Les deux membres du groupe qui ont composé la plupart de leurs chansons, à savoir John Lennon et Paul McCartney, ont, de l'avis de beaucoup de monde, su trouver la manière de composer de bonnes chansons. Ce que je propose donc de faire pour aujourd'hui, c'est d'essayer de partir d'une de leurs chansons les plus connues et d'essayer de comprendre ce qui fait que cette chanson marche. La chanson que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est Let It Be. Cette chanson, elle a été composée par Paul McCartney et elle est sortie sous forme de single en 1970. Elle a tout de suite eu un succès monstre, c'est-à-dire qu'elle a été numéro 1 des ventes aux États-Unis, numéro 2 des ventes au Royaume-Uni, et plusieurs années plus tard, le magazine Rolling Stones l'a placée à la 20e place des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Alors on peut bien sûr penser tout ce qu'on veut de ce genre de classement, ce que ça montre en tout cas, c'est que pour beaucoup de monde, Let It Be est une bonne chanson. J'en reviens donc à ma question de départ, qu'est-ce qui fait que cette chanson marche? Alors avant d'en dire plus, je vous propose d'écouter ensemble cette chanson. Pour des petits problèmes de droit d'auteur, je ne vais pas pouvoir vous passer l'enregistrement original des Beatles. Donc je vous renvoie à cet enregistrement, il est facile à trouver. Vous pouvez le chercher après avoir visionné cette vidéo, avant de visionner la suite. Ce que je vais faire de mon côté, c'est essayer de vous réinterpréter cette chanson avec le petit piano que j'ai juste ici.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be.
Bon, cette chanson, je me lasse pas de la jouer et je me lasse pas non plus de l'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'apprécier? Tout un tas de raisons différentes qui sont sûrement toutes autant valables les unes que les autres. Si on comprend un peu l'anglais, on peut être touché par les paroles de cette chanson. Let it be, ça peut se traduire en français par ainsi soit-il. Et le message de la chanson, c'est grosso modo de dire qu'il faut faire face aux difficultés de la vie sans désespérer. C'est un message assez simple, mais qui peut toucher beaucoup de monde. Au-delà des paroles, bien sûr, ce qui donne de la puissance d'évocation, c'est la musique. Et quand on parle de la musique de Let It Be, là aussi on peut penser à beaucoup de choses différentes. On peut aimer tout ce qui a trait à l'enregistrement particulier des Beatles, justement. C'est-à-dire la voix du chanteur, c'est-à-dire la performance d'interprète des musiciens. Mais aimer la chanson Let It Be, c'est justement remarquer, comme on le fait là, qu'on peut apprécier la chanson même quand elle est jouée par quelqu'un d'autre. Si donc on fait abstraction de ce que j'ai évoqué jusque-là, les paroles de la chanson, les performances de musiciens et de chanteurs des Beatles, qu'est-ce qui reste de la chanson Let It Be qui rend cette chanson mémorable? Alors si on essayait de retrouver l'essentiel de la chanson Let It Be, de trouver la substantielle moelle de la chanson Let It Be, on arriverait sûrement à quelque chose comme ça. Ce que je joue au piano, on pourrait le siffloter, on pourrait le chantonner, c'est ce qu'on appelle la mélodie. Qu'est-ce qu'une mélodie? Eh bien simplement une succession de notes qui permet de susciter des émotions. En musique, on a l'habitude, pour décrire les différentes parties d'une mélodie, d'utiliser l'expression phrase musicale. Cette expression, elle montre bien à quel point la succession de notes qui constitue la mélodie n'est pas construite au hasard. Les parties qui font la mélodie constituent autant de phrases avec un début et une fin, des phrases cohérentes, une construction cohérente. Et c'est la cohérence de cette construction qui fait que cette mélodie marche. La mélodie de Let It Be se compose de différentes notes qui tournent autour de trois notes principales: Do, Mi et Sol. Je vais vous les jouer là, le Do, le Mi et le Sol. Ça, ces trois notes, ce sont les piliers de la mélodie de Let It Be. Ces trois notes, on les voit réapparaître à différents moments de la chanson. Et entre ces notes, on a d'autres notes qui jouent le rôle de notes de passage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette idée de note de passage? Je pourrais l'illustrer de la manière suivante. Si je jouais le début de la mélodie comme ça, arrêtez là. Vous êtes d'accord avec moi qu'il nous manque quelque chose, qu'on reste comme suspendu dans les airs. Et si on est suspendu dans les airs, c'est qu'on finit par une note, la note Ré, qui appelle une autre note. On a envie de retomber sur une des trois notes principales, Do, Mi et Sol. Alors par exemple, je pourrais retomber sur la note de Do qui est pas très loin. J'aurais cette phrase-là. Vous voyez, ça marche globalement, c'est pas la mélodie de Let It Be, mais on a ce sentiment de conclure qu'on n'a pas quand on reste suspendu sur le Ré. Alors, les Beatles, eux, font un autre choix. Au lieu de retomber sur le Do, ils continuent cette phrase musicale comme ça. Il faut attendre un certain nombre de notes pour retomber sur le Do. Et c'est l'ensemble de cette succession qui forme la première grande phrase de Let It Be. L'autre outil qui est beaucoup utilisé dans cette mélodie, c'est la répétition de motifs qui sont agréables à l'oreille. Là, un des motifs principaux de la mélodie, c'est celui-là. Il s'agit des trois dernières notes du couplet. Mais il s'agit aussi, vous allez voir, de trois notes qu'on retrouve dans la partie suivante, ce qu'on appelle le refrain. Alors, ce refrain, il donne ça. Ce qu'on remarque dans ce refrain, c'est qu'on a un motif répété de trois notes. Vous voyez, à chaque fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour finir, vous allez voir sur ce dernier motif qui finit le couplet, on a une espèce d'écho qui se fait entre le couplet et le refrain, et cet écho, il est lié à la répétition de ce petit motif de trois notes. Je résume donc pour aller très rapidement. utilisation de trois notes importantes, Do, Mi et Sol. Utilisation de notes de passage pour évoluer entre ces trois notes et construire des phrases musicales. Et enfin, répétition de motifs assez simples qui plaisent à l'oreille, et notamment ce fameux motif. Je voudrais juste faire remarquer que ce motif, on le retrouve aussi dans l'accompagnement qui est joué par les Beatles et que j'ai repris au piano. Quand on joue cet accompagnement, on a... Ce que j'ai joué là en accentuant à la fin, c'est encore cette succession de trois notes retrouve à différents moments du morceau. Et ça, c'est un des ingrédients qui rend cette chanson mémorable. Vous savez, il y a certaines chansons dans l'histoire de la musique qui sont devenues mémorables, pas tellement parce qu'on se rappelle des paroles, pas tellement parce qu'on se rappelle de la mélodie en entière, mais parce qu'on se rappelle de petits motifs musicaux comme ça qui restent en tête. Si je vous donnais un autre exemple de chanson que Let It Be, en vous chantant le pam, 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 vous pourriez peut-être retrouver le titre de la chanson. Il s'agit de la chanson Seven Nations Army. Ce qui est marquant, c'est que la plupart des gens connaissent ce motif musical, c'est chanté dans les stades de foot, mais peu de gens, ou en tout cas beaucoup moins de gens, connaissent le titre de cette chanson. Donc ce qu'on retient, c'est un motif musical, et des motifs musicaux simples peuvent contribuer à rendre une chanson mémorable. C'est le cas pour Let It Be. Donc ça, c'est pour la mélodie. Essayons d'aller un peu plus loin, parce qu'on se rend bien compte qu'une chanson, c'est plus qu'une simple mélodie. Si je me posais la question de jouer Let It Be au piano, j'essaierais d'enrichir ma mélodie avec d'autres notes. La mélodie, je la joue avec ma main droite, je pourrais essayer de jouer avec ma main gauche des notes qui vont venir enrichir cette mélodie. Je me pose alors la question de construire un accompagnement qui aille avec la mélodie. Cet accompagnement, je peux le voir très vite, il ne peut pas se faire avec n'importe quelle note. Si je vous joue une première version comme ça, j'ai quelque chose qui marche. Un accompagnement à la main gauche qui fonctionne avec les notes que je joue à la main droite. Si je joue à l'inverse quelque chose comme ça, vous voyez, je joue des accompagnements au hasard à la main gauche, mais qui ne collent pas du tout avec la mélodie qui est restée identique par rapport à notre première version sur la main droite. Mais on voit bien que là, il y a une dissonance entre l'accompagnement que je joue à la main gauche et ce que je joue à la main droite pour la mélodie. Alors, cet accompagnement très simple que je joue à la main gauche, c'est sûrement l'un des accompagnements les plus basiques qu'on peut jouer pour accompagner une chanson. C'est ce qu'on appelle une suite d'accords. Alors, c'est sur ça qu'on va se pencher dans les minutes qui suivent. Pour comprendre ce qu'est une suite d'accords, il faut comprendre d'abord ce qu'est un accord de musique. Je joue un accord de musique quand, au lieu de jouer une note l'une après l'autre, je joue plusieurs notes en même temps. Un accord de musique possible, c'est ça. Mais je jouerai de la même manière un accord en faisant ça. Donc, un accord, plusieurs notes jouées en même temps, mais ce qu'on voit très vite, c'est qu'on a des accords qui sonnent plutôt agréablement à l'oreille, et des accords qu'on qualifierait de dissonants, des accords donc qui sont plus désagréables à entendre à l'oreille. Alors, tout dépend du contexte, bien sûr. Tout ce que je dis là n'est pas absolu. Il y a beaucoup de styles musicaux, beaucoup d'œuvres musicales qui ont recours à des accords dissonants, et ces accords dissonants ont quelque chose de très intéressant. C'est pas quelque chose qui est banni de la musique. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ces accords qui, au premier abord, semblent harmonieux, semblent agréables à entendre quand je les joue. Des accords comme celui-là, mais aussi comme celui-là, et puis comme celui-là. Ce que je joue là, c'est ce qu'on appelle des accords parfaits. Qu'est-ce qu'un accord parfait ? Fondamentalement, un accord parfait, c'est un accord qui est constitué de trois notes. Ces trois notes portent chacune un nom, la fondamentale, la tierce et la quinte. J'ai à ma disposition cette gamme musicale qu'on est nombreux à connaître, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. partir de chacune des notes de cette gamme, je peux construire un accord parfait de la manière suivante. Je choisis une note qui constituera ce qu'on appelle la fondamentale de l'accord, par exemple la note Do. À partir de cette note, je vais chercher une tierce. Tierce, ça renvoie au nombre 3, donc je vais remonter de 3 notes dans ma gamme. Do, Ré, Mi. La tierce de mon accord, de Do, qui a pour fondamentale le Do, et la note Mi. Donc j'ai déjà ces deux notes, la fondamentale et la tierce, qui forment une petite partie de l'accord. Et puis je vais chercher ma troisième note, la quinte. La quinte, ça renvoie au nombre 5. Je vais remonter de 5 notes en partant de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La quinte qui va avec la note Do, c'est la note Sol. Si j'associe au final ces trois notes, fondamentale, tierce, quinte, j'obtiens ce qu'on appelle un accord parfait de Do. De la même manière, je pourrais construire à partir des différentes notes de ma gamme différents accords parfaits. Par exemple, là, je vous joue un accord de Sol majeur. Je peux vous jouer aussi un accord de Fa majeur. Toujours construit en suivant ces règles que je vous ai énoncées. À tout ça, on peut ajouter une subtilité. Dans la musique occidentale, on a l'habitude de distinguer deux grandes familles d'accords, ce qu'on appelle les accords majeurs et ce qu'on appelle les accords mineurs. Alors par exemple, à partir d'un accord majeur de Do, comment est-ce que je construis un accord mineur de Do ? Eh bien, je vais y prendre la mère suivante, je vais prendre la tierce de mon accord, la note Mi, et je vais, pour utiliser des termes qui ne sont pas du tout académiques, descendre cette note d'un cran. Au lieu d'avoir Mi, j'ai ce qu'on appelle un Mi bémol, un Mi abaissé d'un petit cran. Et avec cette nouvelle tierce abaissée d'un cran, j'obtiens un accord différent, celui-là. Ça, c'est l'accord de Do mineur. Accord de Do majeur, ce qu'on a vu au départ. Accord de Do mineur. Je pourrais faire la même chose pour différents accords. Sol majeur. Sol mineur. On a parfois l'habitude de dire que les accords mineurs semblent souvent plus tristes, plus sombres que les accords majeurs. En réalité, si on voulait rester juste, on devrait simplement dire que ces accords semblent sonner différemment. Dans la chanson Let It Be, j'ai tantôt des accords majeurs, tantôt des accords mineurs. Et ce ne sont pas tellement ces accords pris séparément qui ont une importance, mais la suite d'accords, l'ensemble des accords de la chanson de Let It Be, qui forment une construction. Donc, pour comprendre ce qui fait que cette chanson marche, il va falloir se demander de quelle manière est construite cette suite d'accords de Let It Be. Je précise que l'ordre dans lequel j'expose les choses, partir de la mélodie pour aller vers les accords, est une façon possible de comprendre comment est-ce qu'on construit une chanson. Certains compositeurs partent en effet d'une mélodie qu'ils ont en tête et retrouvent ensuite la suite d'accords qui va avec cette mélodie. Mais à l'inverse, d'autres compositeurs peuvent partir d'une suite d'accords et construire une mélodie qui va avec cette suite d'accords. Il n'y a pas de règle absolue et l'ordre dans lequel je présente les choses ne correspond pas forcément à l'ordre dans lequel les compositeurs composent la chanson. De la même manière que dans la mélodie, on va pouvoir distinguer dans la suite d'accords les accords piliers, des accords fondamentaux autour desquels tourne la suite d'accords. Pour Let It Be, ce sont ces trois accords. Do majeur, Sol majeur et Fa majeur. Le Do majeur, c'est l'accord le plus important de la chanson, c'est celui sur lequel on commence, c'est celui sur lequel on termine. Ces trois accords sonnent très agréablement à l'oreille. Et ce phénomène a été constaté par beaucoup de monde. On tend à appeler cette succession d'accords ce qu'on appelle une cadence parfaite. Et cette succession d'accords, cette cadence, elle se retrouve dans différentes chansons de la musique occidentale. Si vous jouez par exemple ça, peut-être le gospel Amazing Grace, qui se construit exactement sur cette suite d'accords, cette cadence parfaite. Je pourrais, sur cette même cadence, vous jouer un style de musique qui est très souvent joué dans les allées de notre fête. Le blues, en tant que style musical, a pour fondement, très souvent, cette cadence parfaite qui est utilisée dans Let It Be. À partir de ces trois accords, je peux construire d'autres suites d'accords un peu plus complexes en intercalant des accords de passage, comme avec ma mélodie. Si on prend le début de Let It Be, j'ai au début du couplet ces accords, Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. Donc je retrouve mes trois accords importants, mais j'ai intercalé ce petit accord de La mineur qui ajoute une couleur un peu nouvelle à ma suite d'accords. Alors là aussi, on a affaire à une suite d'accords qui est relativement utilisée, relativement fréquemment utilisée dans beaucoup de chansons. Si je vous joue ça, de Shakira. Cette chanson fonctionne exactement avec cette même suite d'accords qui constitue le début de la suite d'accords de la chanson Let It Be. Je pourrais de la même manière m'amuser à reconnaître des suites d'accords familières dans le refrain de Let It Be. Le refrain de Let It Be commence avec ces accords. La mineur, Sol majeur, Fa majeur. Ici, ce qui se passe, c'est que je descends à chaque fois ma gamme, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, d'un cran avec mes accords. Je prends mon accord de La mineur, je le descends d'un cran, j'obtiens mon accord de Sol majeur, et je descends encore d'un cran pour obtenir mon accord de Fa majeur. Alors, ce type de suite d'accords est très utilisé dans beaucoup de chansons. Si je vous joue par exemple ça, Jack de Richard. Ce que je vois avec cette suite d'accords de Let It Be, c'est qu'elle réutilise un certain nombre de motifs qui nous sont familiers, en tout cas qui nous sont familiers quand on a l'habitude d'écouter de la musique occidentale. La réutilisation donc d'éléments de structure qu'on a l'habitude d'entendre est un des éléments qui permet de composer une chanson qui sonne bien à l'oreille. Alors on pourrait s'étonner du fait que des chansons très différentes les unes des autres soient composées sur une même suite d'accords, ou en tout cas sur des suites d'accords qui se ressemblent. Ça renvoie à la magie de la musique. C'est le fait qu'à partir d'une même suite d'accords, je peux composer des chansons qui sont très différentes les unes des autres. Y compris en reprenant la simple suite d'accords de Let It Be, cette suite d'accords, je peux la jouer dans des esprits et dans des couleurs qui sont très différentes. Par exemple, ici. Reprends les accords de Let It Be et je les joue de façon reggae. Si je joue ces mêmes accords de la manière suivante, j'ai la même série d'accords qui est là jouée dans un esprit un peu différent, très différent de la version reggae. À partir d'une même suite d'accords, j'ai construit quelque chose de différent. Ce qu'on comprend au travers de tout ça, c'est qu'une chanson ne se résume ni simplement à sa mélodie, ni simplement à sa suite d'accords. Ce qui fait qu'une chanson marche, c'est la combinaison réussie de tous ces ingrédients, des notes qui composent la mélodie, des notes qui constituent la suite des accords de la chanson. La chanson Let It Be fonctionne donc parce qu'elle constitue une construction qui tient d'une pièce et qui combine harmonieusement tous les éléments qu'on a évoqués. On pourrait presque avoir l'impression que si Paul McCartney n'avait pas composé Let It Be, il aurait suffi d'attendre pour retrouver cette chanson qui semble cohérente, qui semble exister d'elle-même au-delà de son compositeur. En évoquant tout ça, je ne fais qu'effleurer ce vaste sujet qui consiste à se demander comment composer une bonne chanson. Ce vaste sujet que constituent les règles de l'harmonie musicale. Et en tout cas, ce qui fait qu'une chanson plaît ou pas, pour revenir à ma question de base, est loin de simplement se résumer à ces règles de l'harmonie musicale. Encore une fois, le fait d'aimer une chanson renvoie à des motifs profondément subjectifs qui sont tous autant légitimes les uns que les autres. Je voudrais enfin terminer en disant que cette composition faite par Paul McCartney, ce qu'on décompose en regardant la mélodie, en regardant la suite d'accords, constitue une base qui offre un champ infini d'interprétation. Et le destin d'une chanson est aussi lié à ça, à sa capacité à être réinterprétée, à être jouée par tout un tas de musiciens différents qui vont se réapproprier cette chanson. La force de la chanson Let It Be réside sûrement aussi dans cette capacité à parler à nombre de gens et à donner envie à un certain nombre de gens de la jouer, de la réinterpréter. Cette possibilité de réinterpréter une chanson à l'infini, dans des variétés différentes, fait qu'une chanson qui est composée à un moment donné de l'histoire de la musique peut avoir une longévité qui va bien au-delà de la longévité propre de son compositeur. Je vais m'en arrêter là pour ce petit exposé. Il s'agit en tout cas d'une très brève introduction à un sujet très large qui appelle énormément de questions. Je vous laisse donc réfléchir à tout ça de votre côté et je vous dis à très bientôt.